Alors voilà, ce matin c'est ma première, comme Mickaël l'a dit, c'est ma première prédication. Donc, comment allais-je choisir le passage pour parler ce matin, de quoi allais-je parler? Et alors voilà, comment savoir ce que le Seigneur voulait que je partage ce matin avec vous? Alors j'ai choisi un passage qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps et qui, je l'espère, vous parlera tout autant, énormément, comme à moi. L'enseignement de ce passage est assez fort. Il nous aide à grandir dans la compréhension de la vie chrétienne et nous aide à mieux comprendre la personne de Jésus-Christ. Alors, il n'est peut-être pas réjouissant à entendre dans un premier temps, mais tellement grandiose dans son accomplissement. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire du jeune Théophile? Alors, j'ai choisi Théophile parce qu'on a eu une naissance d'un petit garçon qui s'appelle Théophile dernièrement, donc voilà. Mais est-ce que quelqu'un connaît cette histoire? Certainement pas. Mais Théophile était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et alors, depuis sa naissance, on lui avait détecté une maladie grave. Mais il n'y avait pas encore de moyens vraiment pour guérir cette maladie. Mais sinon, à part cela, Théophile vivait dans une famille paisible, qui l'aimait, qui était affectueuse envers lui. Cette famille vivait dans un quartier bourgeois de Londres. Et ne manquait de rien, au point de vue matériel ou financier, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Alors, Théophile était un garçon qui avait beaucoup d'ambition. Il avait commencé des études pour être architecte. Et depuis 2 ans, il suivait ses études. Et pendant les vacances d'été, lors d'une visite régulière chez son médecin, due à sa maladie, le grand verdict est tombé. Théophile, je suis désolé, mais tu vas bientôt mourir. Mais docteur, docteur, n'y a-t-il pas un moyen d'être guéri? Nous avons les moyens de payer les médicaments ou les soins. Mon cher Théophile, lui répondit le médecin, il y a bien un moyen pour ta guérison et pour que tu vives. Mais il ne coûte absolument rien. Il est entièrement gratuit. Par contre, le chemin pour atteindre le remède, il est difficile, il est laborieux. Il est rempli de ronces et d'épines. Mais par contre aussi de magnifiques paysages où tu devras éviter de perdre du temps et ne pas oublier ce que tu es parti chercher. Par endroits, des grands ravins se dresseront devant toi et tu devras être prêt à risquer ta vie pour les franchir, pour atteindre la solution à ta maladie. Et autre chose encore, Théophile, c'est maintenant que tu dois partir. Tu ne dois plus attendre. Tu dois abandonner tes études et partir de suite. Pensez-vous que la décision de Théophile était difficile à prendre? Qu'auriez-vous fait à sa place? Bien sûr, le garçon a renoncé à ses études qu'il avait entreprises. Il est parti directement, malgré les risques encourus en chemin, afin de trouver le médicament qui lui permettrait de continuer à vivre. Alors on va lire aujourd'hui dans la parole, dans Marc, au chapitre 8, verset 27. Et nous lirons jusqu'au chapitre 9, verset 8. Donc Marc, chapitre 8, verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée et de Philippe. Il posa en chemin cette question. « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste. » D'après d'autres, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, tu es le Messie. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, réprimanda Pierre en disant, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas de Dieu, mais celles des hommes. » Puis, il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Verset 1 du chapitre 9. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire car ils étaient effrayés. Une nuée va les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le !» Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ici se termine la lecture. Alors, nous allons aujourd'hui nous attarder davantage sur les versets 34 à 38 du chapitre 8. Donc je vous invite à garder une main là-bas. Mais nous allons voir plus tard pourquoi j'ai tenu à lire tout ce qui englobait ce passage. Alors le début du verset 34 nous dit « Dieu, puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, donc Jésus, puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Celui qui veut être mon disciple, alors, nous voyons aussi que l'appel est général. Il s'adresse à tout le monde, pas seulement aux 12 apôtres, ou aux juifs, ou aux païens, mais à toute personne qui a le profond désir de suivre Jésus. Dans l'original, il est marqué « à quiconque désire devenir son disciple ». La foule entière a été appelée par Jésus. Devenir son disciple, ok, pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est devenir disciple de Jésus ? Alors, ce matin, je ne vais pas commencer à faire un grand détail sur le mot « disciple », mais juste quelques brèves définitions peut-être du mot « disciple ». Tout d'abord, le dictionnaire nous dit « Le disciple, étymologiquement, c'est l'élève, celui qui suit l'enseignement d'un maître, donc il devient dès lors son disciple. » Cela peut s'appliquer à notre cas, je pense. Nous avons toujours à apprendre de Jésus. Il est le professeur par excellence. Au verset 27 du texte qu'on vient de lire, au chapitre 8, Jésus s'en alla avec ses disciples. Et au verset 31, nous voyons qu'il les enseigne. Mettons en pratique les enseignements du Maître. Alors, par exemple, je décide de prendre des cours du soir de culture. Je sais bien que c'est bizarre la culture pour moi, mais pourquoi pas. Mais ça va bien avec mon exemple. Donc, je prends des cours du soir de culture. Et voilà, je décide parce que j'ai dans l'objectif de faire une robe de soirée à ma chère et tendre épouse. On a un mariage qui s'en vient au mois d'octobre, donc je vais lui faire une belle ronde, donc je décide de prendre des cours. Alors, je suis les cours, j'écoute les conseils du professeur, je prends des notes sur ce qu'il m'enseigne. Et voilà, les cours sont finis, la session terminée, je m'attaque à la confession de cette fameuse robe. Mais, bien sûr, je suis un peu plus malin que le professeur, même beaucoup plus malin que lui, donc je décide de coudre comme je l'entends. Imaginez-vous le résultat final de la robe. Il est catastrophique, impossible à porter. Voilà pourquoi nous devons écouter les conseils du Maître. Si nous voulons arriver à notre objectif, lui ressembler. Mais pour nous chrétiens, nous voyons quand même cela d'une manière un peu moins conventionnelle qu'une simple relation maître-disciple. Si nous survolons les 4 évangiles et le livre des Actes, nous comprendrons rapidement ce que représente le disciple. Alors je vous invite à prendre Luc, chapitre 9. Verset versets 57 à 62. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons qu'à trois reprises, le disciple est celui qui suit le maître. Alors, vous allez me dire que dans ce passage, le mot « disciple » n'apparaît pas, et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais si nous lisons juste le premier verset du chapitre suivant, qui suit cela, « Après cela, Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya devant lui, par deux, dans toutes les villes, dans tous les endroits où lui-même devait aller. » Donc voilà, encore 70 autres disciples. Donc, 70 en plus de ce qu'on vient de lire ici, de ceux précédemment. Donc on parle bien de disciples dans ce passage. Autre chose sur le disciple, un dernier passage. Pouvons-nous dire que chaque chrétien est un disciple? Est-ce que chaque chrétien est un disciple? Je vais vous lire dans Actes, chapitre 2, 38 à 41. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Donc je pense que d'après la lecture de ce texte, nous pouvons affirmer qu'un chrétien, une personne qui s'est repentie et qui a accepté le salut de Jésus-Christ, est son disciple. Nous venons de dire que nous devons mettre en pratique l'enseignement du Maître et le suivre. Alors, relisons ensemble le passage qui nous intéresse ce matin. Marc 8, 34 à 38. Puis, il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » Nous pouvons voir que les paroles de Jésus ici soit un enseignement direct que nous devons mettre en pratique. Il nous rappelle que pour être disciple de Jésus-Christ, nous devons le suivre. Mais il y a aussi deux autres choses. Premièrement, nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est ce que le texte dit. Mais qu'est-ce que cela implique, le renoncement à soi-même? Il est vraiment incroyable de remarquer comment Marc a rédigé son évangile. Il n'a pas fait ça au hasard. Jusqu'au chapitre 8, où on est pour le moment, il nous décrit Jésus comme un Dieu puissant qui réalise beaucoup de miracles. Il a guéri des aveugles, il a guéri un paralysé, il a guéri une femme qui avait des hémorragies de sang depuis 12 ans, qui avait donné tout ce qu'elle possédait chez de nombreux médecins pour être guérie. Il a chassé de nombreux démons, donc une légion complète même.
Jésus est décrit jusqu'au chapitre 8 comme le Messie puissant qui devait venir après son précurseur Jean-Baptiste. Nous le voyons aussi comme Dieu lui-même, qui est capable à deux reprises de multiplier quelques petits pains, quelques petits poissons. Et pas pour 100 personnes, mais pour 5000 personnes. Et une deuxième fois pour 4000 personnes. Nous le voyons comme Jésus étant Dieu pour apaiser la tempête. Et dans le chapitre 2, nous voyons qu'il est vraiment Dieu. Les pharisiens, verset 7, se posent la question. Mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et nous sommes là dans l'épisode où Jésus dit aux paralysés, tes péchés sont pardonnés. Oui, Jésus est vraiment Dieu, parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que jusqu'au chapitre 8, où Pierre reconnaît enfin que Jésus est bien le Messie, avant cela, personne n'avait reconnu Jésus comme le Messie, si ce n'est les démons. L'évangéliste Marc ne donne pas vraiment d'exemple de renoncement à soi. Alors, j'en ai trouvé deux, il y en a peut-être d'autres, mais deux peut-être petits avant-goûts de renoncement à soi avant le chapitre 8. Au chapitre 1, quand Jésus appelle Jacques et Jean, ceux-ci le suivirent aussitôt et laissèrent leur père. Donc, entre guillemets, on pourrait dire qu'ils ont abandonné leur père pour suivre Jésus. Ou au chapitre 2, on a un petit exemple aussi où Lévi, assis au bureau des taxes, se lève d'un coup, il abandonne tout ce qu'il a pour suivre Jésus. Mais par contre, directement, après que Pierre l'ait identifié comme le Messie puissant qui était annoncé par les prophètes, Jésus annonce aussi pour la première fois qu'il doit souffrir, qu'il doit mourir, et qu'il va ressusciter le troisième jour. Quelle est la réaction de Pierre face à cette annonce? Il ne l'accepte pas. Il la rejette en bloc. Pierre est d'accord d'accepter que le fait que Jésus est Dieu, ça, il l'accepte. Il veut bien reconnaître tout ce qui le réjouit. Toutes les bonnes choses que Dieu fait, les bonnes choses que Dieu annonce, ça, Pierre veut bien le reconnaître. Mais quand il s'agit d'accepter le fait que Jésus doit mourir et souffrir, cela est bien plus difficile. Alors voilà, c'est pour ça que il était important pour moi de vous lire les versets précédents, le texte qui nous intéresse. Alors Jésus annonce des choses difficiles à reconnaître sur lui, mais directement après, il nous invite à faire de même. Marc veut que nous comprenions ce que cela implique, le renoncement à soi-même. Il va nous apporter, dans la suite de son récit, plusieurs exemples de renoncement à soi. Est-ce que quelqu'un peut me dire, au chapitre 10 qui suit, quelle histoire bien connue nous pouvons trouver? Est-ce que quelqu'un sait, au chapitre 10 de Marc? C'est l'histoire du jeune homme riche. Il vient auprès de Jésus, il se jette à ses pieds pour lui demander, mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Seigneur, que dois-je faire? Alors Jésus lui dit, mais tu connais les commandements. Et il lui cite quelques commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Mais cependant, attention, hein, Jésus ne cite pas le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et que fait le jeune homme riche? Mais il s'empresse de répondre. Mais j'ai respecté toutes ces choses. C'est magnifique, j'ai respecté tout ça. Mais Jésus lui dit alors, il ne te manque qu'une seule chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et après ces paroles, le jeune homme riche s'en alla tout triste. Mais pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas renoncer à toutes ses richesses, à ses ambitions personnelles. Son but dans la vie était certainement de gagner beaucoup d'argent, de pouvoir en profiter un maximum, de le dépenser à sa guise. Mais bien sûr, ne pas tout donner aux pauvres. Voilà un bel exemple d'une personne qui n'a pas voulu renoncer à lui-même. Et le verset 21 de ce récit met un lien direct avec notre verset, notre texte central ce matin, puisque Jésus dit au jeune homme, « Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » après avoir renoncé à lui-même, à ses ambitions personnelles, pour devenir disciple de Jésus, il aurait dû le suivre, comme Jésus lui-même le lui demande, comme Jésus lui-même nous le demande. Dans Marc, au chapitre 9, 33 à 37, je vais vous le lire. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, on parle ici des apôtres, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Marcher avec Christ, c'est suivre son exemple, c'est renoncer à toute idée de grandeur en servant les autres, humblement. Alors, avons-nous des ambitions personnelles ce matin? Il y a certainement des ambitions personnelles que nous pouvons déceler facilement, mais il y en a d'autres qui sont plus difficiles à reconnaître. Donc, premièrement, nous devons renoncer à nous-mêmes. Deuxièmement, nous devons porter notre croix. Alors, j'ai trouvé un moyen très rapide, très facile de porter sa croix. Voilà. Je porte ma croix, je ne sais pas si tout le monde la voit, mais voilà, c'est fait. J'ai porté ma croix, c'est rapide, c'est facile. Mais est-ce que c'est vraiment cela que Jésus nous demande dans ce texte? Est-ce vraiment cela? À quoi pouvait bien penser Jésus quand il nous demande de porter notre croix si nous voulons être son disciple? À l'époque où Jésus parle à la foule et à ses disciples, le fait de porter sa croix était quelque chose de facile à comprendre. Mais aujourd'hui, nous entendons souvent « Mon papa est âgé, il est fort malade, je m'occupe de lui tous les jours ». Et c'est là que je porte ma croix. Ou mon travail est difficile, mes collègues ne sont pas très sympas, mon patron n'est pas très correct envers moi. Mais le fait d'aller travailler tous les jours, c'est là que je porte ma croix. Je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas faire ces choses. Au contraire, c'est un bon moyen de montrer que nous aimons notre prochain. Mais n'employons pas cette expression pour décrire ces choses. À cette époque où Jésus dit ça, les personnes qui portaient une croix, ce n'était jamais pour le plaisir. Les personnes qui portaient une croix étaient les pires criminels, ceux qui étaient condamnés à mort pour leurs mauvais agissements. En se référant à la croix et à ce qu'elle représente, Jésus nous enseigne que nous devons être prêts à mourir, même de cette mort-là, si nous voulons le suivre. Au verset 35 de notre passage, « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Alors, ne passons pas trop vite à une application imagée de ce verset. « En effet, celui qui voudra sauver sa vie, donc c'est-à-dire celui qui n'est pas prêt à aller à la croix, pour Christ, pour la cause de Jésus, ben il perdra sa vie. Mais celui qui la perdra, donc celui qui est prêt à aller à la croix, à cause de Jésus et de la bonne nouvelle, la sauvera. Notons que ce verset parle toujours, dans un premier temps, de la vie physique, et dans un deuxième temps, de la vie éternelle. Si tu veux sauver ta vie physique, tu perdras la vie éternelle. Mais si tu es prêt à perdre ta vie physique pour Jésus, alors tu auras la vie éternelle. Mais attention, attention, il ne faut pas être prêt à perdre sa vie pour n'importe quoi ou n'importe qui. Le verset souligne la seule bonne raison. Elle est pour Jésus-Christ et pour l'évangile dont Jésus-Christ est l'objet. Suivre Jésus, c'est avoir foi en lui, en l'évangile et en ses paroles. Il est flagrant de voir comme ce verset 35 souligne le verset précédent en nous invitant à considérer Jésus et la bonne nouvelle comme bien plus important que notre propre existence. Pour mieux comprendre le sens de ce verset, lisons dans Marc 12, je vous invite à prendre avec moi, Marc 12 au verset 41. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi et elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et il leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc. Tandis qu'elle, elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette femme avait compris qu'elle devait tout donner au Seigneur. Cette femme avait bien compris le sens de porter sa croix. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Prenons exemple sur cette veuve qui était prête à mourir pour son sauveur. Le verset 36 et 37 de notre passage. Et que servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Comment sauver son âme? Comment sauver son âme? L'homme riche pensait sauver son âme en respectant la loi. On pouvait aussi dire qu'il avait gagné le monde parce qu'il vivait certainement sans souci d'argent. L'homme riche avait-il sauvé son âme? Certainement pas, c'est sûr que non. Sinon, il ne serait pas parti tout triste. Il n'avait pas renoncé à lui-même, à ses biens personnels. Il était impossible pour lui de sauver son âme. Par contre, s'il avait vendu tous ses biens, donc s'il aurait renoncé à lui-même, et donc s'il avait été prêt à mourir, parce que s'il ne possédait plus rien, il aurait pu mourir pour suivre Jésus. Il aurait eu la vie éternelle, promise à ceux qui se confient en lui, en son sacrifice et en sa résurrection. Christ lui-même aurait racheté son âme au prix de sa propre vie. De même, dans ces versets, les questions de Jésus ne sont pas anodines. Il ne pose pas les questions comme ça. Elles nous montrent bien que par nous-mêmes, nous sommes incapables d'obtenir la vie éternelle, mais uniquement en Jésus-Christ. Jésus nous montre aussi par ses questions l'immense fossé entre le monde éphémère amené à disparaître et ce qui est amené à durer pour l'éternité. Perdre la vie éternelle est le pire de tout. J'aurais aussi voulu vous parler de Jean-Baptiste ce matin et de sa mort. Il a aussi porté sa croix en déclarant à Hérode la vérité. Il n'était pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère, ce qui a poussé la femme d'Hérode à le faire décapiter. Jean-Baptiste avait porté sa croix. Nous avons vu dans un premier temps que nous devons renoncer à nous-mêmes. Dans un deuxième temps, nous avons vu ce que cela signifiait de porter sa croix. C'est le fait d'être prêt à mourir pour Christ et son évangile. Mais on ne s'arrête pas là. Et la conclusion est magnifique. Ce sont peut-être des choses difficiles à entendre, mais Jésus ne nous laisse pas comme ça. Relisons le dernier verset, le verset 38 de notre passage. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. La fin du verset nous dit, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc Jésus va revenir chercher et prendre ses disciples auprès de lui. si nous le suivons, si nous suivons sa parole, il n'aura pas honte de nous et il nous prendra dans sa gloire. Alors, voilà maintenant les explications de la lecture après notre passage que nous avons lu en début. Pierre a refusé d'accepter que Jésus devait souffrir et mourir. Jésus lui-même a dit « Arrière de moi, Satan !» Mais dans son amour, dans sa grande compassion, Dieu a voulu que Pierre accepte cela. Que Pierre accepte de renoncer à lui-même. Que Pierre accepte de porter sa croix. C'est pourquoi Dieu, dans l'épisode de la transfiguration, lui a fait goûter à la gloire à venir. Jésus veut nous faire comprendre que le suivre est quelque chose de radical, que cela va à l'encontre de ce qu'on peut penser être bien pour nous. Mais cela en vaut vraiment la peine. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous prendrons part à la gloire du Père lors de son retour. Si le chemin du disciple est difficile, Dieu lui-même nous donne le moyen de le surmonter. Gardons les yeux fixés sur la gloire à venir et persévérons. Mais maintenant, qu'est-ce que cela implique pour nous? J'aimerais qu'on se pose une dernière question. Voulons-nous être disciples de Jésus-Christ? Voulons-nous être disciples de Jésus-Christ? Alors si notre réponse est oui ce matin, alors sommes-nous prêts à abandonner le fait d'obtenir une promotion au travail qui nous ferait gagner plus d'argent et qui nous laisserait peut-être moins de temps pour servir dans l'Église? Sommes-nous prêts à rater notre série TV préférée ou la finale de la Coupe du Monde de foot par exemple un vendredi soir pour aller à la réunion de prière qui a été organisée exceptionnellement pour un frère qui est malade? Si nous avons répondu oui à cette question, alors sommes-nous prêts à renoncer à monter en division supérieure dans un sport, ce qui ajouterait des entraînements supplémentaires dans la semaine et qui nous laisserait moins de temps pour Dieu? Sommes-nous prêts à consacrer une ou deux semaines de nos quatre petites semaines de congés par an pour participer à une semaine d'évangélisation ou à de l'aide dans un camp chrétien? Si nous avons répondu oui à cette question, alors sommes-nous prêts à ne pas nous reposer une après-midi ou une soirée pour aller écouter l'enseignement de la parole? Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi et je ne dis pas qu'il faut les bannir. Mais serions-nous prêts à les abandonner si c'était la volonté de Dieu pour nos vies? Si nous avons répondu oui à cette question, alors sommes-nous prêts à aller proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus mort et ressuscité dans les pays où le christianisme est condamnable de mort? Alors sommes-nous prêts à renoncer à nous marier avec un époux ou avec une épouse qui ne veut rien savoir de Jésus-Christ et du cadeau qu'il nous offre? Alors sommes-nous prêts, comme cette veuve, à donner tout ce que nous avons pour vivre? Nous sommes prêts parfois à cacher notre foi pour éviter les moqueries. Alors sommes-nous prêts, sommes-nous vraiment prêts ce matin à porter notre croix? Et ne pensons pas que cela est une option. Si nous voulons être son disciple, nous devons renoncer à nous-mêmes et porter notre croix. Pour terminer, si quelqu'un a répondu non à cette question, voulons-nous être un disciple de Jésus-Christ? Alors j'invite cette personne à relire à la maison ces quelques versets. Jésus montre ici à quel point la vie dans ce monde a si peu de valeur par rapport au don gratuit de la vie éternelle, dont l'accès nous a été donné par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheurs, séparés de Dieu, et que par vos propres actes de justice, vous ne pouvez pas sauver votre vie, si vous acceptez que Christ a vécu la vie parfaite et a pris à la croix la punition que vous méritiez, alors vous deviendrez disciples de Jésus. Le Saint-Esprit vous viendra en aide lorsqu'une épreuve surviendra dans votre vie. Comme le jeune Théophile, vous êtes condamné à mort. Alors n'hésitez plus. N'ayons pas peur de renoncer à nos ambitions terrestres parce que la gloire du Père nous est promise. Alors gardons la parole de 2 Timothée 4, versets 7 à 8, comme encouragement pour notre salut. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Si nous voulons être disciples de Jésus-Christ et le suivre, cela est quelque chose de coûteux et difficile, mais cela en vaut vraiment la peine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.